spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Méga, vous écoutez Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire en Dromardèche. Alors voilà, c'est le mois d'août, vous êtes peut-être en vacances, nous aussi. Donc pour une fois, cette émission n'est pas en direct, mais est enregistrée donc, en ce mois de juillet. Comme c'est les vacances, on a pensé que ce serait une bonne idée de vous proposer des idées de romans à lire donc sur la plage ou où vous voulez, sous un arbre au bord d'une rivière pendant ce bel été. Donc aujourd'hui, nous allons faire des lectures, donc d'extraits de romans. Plusieurs romans donc qui parlent du nucléaire. Et également, nous allons présenter un film qui sortira à la fin du mois d'août. Donc voilà, l'idée étant de raconter des histoires autour du nucléaire. Voilà, donc nous avons tout de même commencé l'émission comme à notre habitude avec des billets. Et on commence par Georges et les nouvelles de Fukushima.
Oui, bonjour chers auditeurs et auditrices. Ce billet mensuel est consacré aux infos récentes sur la centrale de Fukushima. Donc la première partie, c'est une vidéo de FNN, c'est une chaîne japonaise qui prouverait qu'au moment du tsunami, il existait déjà une grande chaleur dans au moins un des bâtiments réacteurs. Ensuite, deux experts, Akio Matsumura et Gordon Edwards, nous parlent de la gestion de l'eau contaminée par TEPCO. Alors d'abord, la vidéo de FNN. Selon le Japan Times du 18-6-2013, la NRA, autorité nucléaire japonaise, vient de faire savoir que suite à l'inspection du bâtiment du réacteur numéro 1, le tremblement de terre du 11 mars 2011 n'aurait pas endommagé la tuyauterie du condenseur d'isolement. C'est un système permettant le refroidissement du réacteur. Effectivement, ce n'est pas une fuite d'eau, mais bien de vapeur qui s'échappait de la centrale avant l'arrivée du tsunami. Sur cette vidéo, deux panaches de vapeur s'échappent de deux endroits différents. Or, au temps, 3 minutes et 28 secondes. Une réplique sismique a lieu et un panache de vapeur se forme côté est. Selon la commission d'enquête indépendante de la Diet et son rapport NA3C, TEPCO a imputé l'accident au tsunami en concluant que le séisme n'était pas responsable des dommages à l'équipement de sécurité pour, sans preuve de fond, éviter toute responsabilité en mettant en cause l'inattendu, à savoir la hauteur du tsunami. Grâce à notre enquête, nous avons vérifié que les personnes impliquées étaient au courant du risque de tsunami et de séisme. Les dommages au réacteur numéro 1 sont dus non seulement au tsunami, mais aussi au séisme, car l'alimentation externe a été perdue, le séisme étant sûrement responsable, car il n'y avait pas de système redondant et diversifié de résilience parasismique pour les alimentations électriques et pour le poste de Shin Fukushima. Notez que l'arrêt automatique, dénommé SCRAM, des réacteurs a eu lieu avant la plus grande onde de choc du séisme, car c'est bien le premier séisme de 14h46 qui a déclenché l'alarme, relevant les barres de contrôle qui ont mis à l'arrêt trois réacteurs. Il existe, selon la JNES, la possibilité d'un accident localisé de perte de liquide de refroidissement, dont les opérateurs du réacteur numéro 1 se sont inquiétés. Enfin, la soupape de décharge ne fonctionnait pas. Deuxièmement, la gestion de l'eau contaminée par TEPCO. Selon deux experts en physique nucléaire cités tout à l'heure, TEPCO est obligé d'utiliser 400 tonnes d'eau par jour en arrosage continu pour supprimer la chaleur résiduelle, qui est due à la fission des atomes, du combustible irradié des cœurs fondus des réacteurs 1, 2 et 3, et pour éviter de nouveaux incendies. Donc, au 7 mai, TEPCO avait récupéré 290 000 tonnes d'eau radioactive dans 940 énormes citernes, mais il en reste 94 500 tonnes dans les sous-sols des réacteurs. Les enceintes de confinement des réacteurs ont été endommagées et l'eau de refroidissement radioactive va se mélanger à 400 tonnes d'eau souterraine. TEPCO recycle les eaux pour assécher les sous-sols. Bon, alors j'ai plus le temps, n'est-ce pas? J'en dirai pas plus. Alors simplement pour terminer, juste pour la forêt, parce qu'il faut quand même sauver la forêt, pour augmenter sa capacité de stockage de 430 000 tonnes d'eau à 700 000 tonnes, à mi-2015, TEPCO doit abattre une forêt et gagner de la place dans l'enceinte de la centrale pour un soi-disant répit de 3 ans. Voilà, merci pour la forêt.
Merci Georges. On enchaîne avec Alain qui va nous parler du MOX et des reprises de transport vers le Japon.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aujourd'hui vous faire partager avec vous mon indignation concernant la livraison de MOX français au Japon. 10 tonnes de MOX, un combustible nucléaire hautement radioactif composé de 3 à 12% de plutonium et d'uranium, viennent d'être livrées le 27 juin dernier au Japon, dans le port de Takahama par Areva. L'archipel nippon est le deuxième client d'Areva, après EDF, pour le retraitement des déchets nucléaires. 7 compagnies d'électricité du pays ont signé un contrat de fabrication de MOX avec Areva. Au total, 4 transports de ce combustible ont déjà eu lieu vers le Japon, et aujourd'hui, 10 tonnes. Le Japon en détient plus de 44 tonnes, dont 35 stockées en France. Un point qui inquiète non seulement en raison de la dangerosité de ce produit, mais également parce qu'il ne faut, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, que 8 kg de plutonium pour fabriquer une arme nucléaire. C'est le premier convoi de MOX vers le Japon depuis la catastrophe de Fukushima en mars 2011, alors que les autorités japonaises ne parviennent toujours pas à stabiliser la situation de cette centrale. Un écologiste, Denis Baupin, vice-président de l'Assemblée nationale, a interpellé le ministère de l'écologie au sujet de cet envoi. Dans une question écrite, il s'est interrogé sur l'opportunité même d'un tel transport, faisant courir des risques inutiles pour son futur stockage dans un État qui connaît régulièrement des événements climatiques et naturels extrêmes. On pense aux tremblements de terre. Et alors même que l'autorité de sûreté nucléaire française a mis en évidence, à plusieurs reprises, les carences de la sûreté nucléaire japonaise depuis la catastrophe de Fukushima. Il s'est aussi inquiété du fait que, par cet envoi, Areva ne cherche à forcer la main des autorités japonaises pour le redémarrage d'installations utilisant du MOX. Denis Baupin a rappelé que ce transport initialement prévu au printemps 2011 avait été repoussé en raison du séisme du 11 mars ayant provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima. Depuis lors, le Japon n'utilise plus que 2 réacteurs nucléaires sur les 54 que compte ce pays. En outre, aucun de ces réacteurs actuellement en fonctionnement n'utilise de MOX. Ce combustible, expédié en masse, n'est donc d'aucune utilité pour le Japon. Il est par ailleurs un facteur très aggravant en cas de catastrophe majeure, augmentant la gravité et l'étendue de la pollution radioactive. Par ailleurs, le client d'Areva, la compagnie japonaise Kansai Electric Power, a précisé dans un communiqué que l'envoi de combustible s'était fait à la demande de la France, qui cherche à mettre fin à son stockage prolongé, mais que son utilisation restait encore incertaine. Un contrat est un contrat. La multinationale du nucléaire Areva, sous le regard bienveillant des autorités françaises, ne s'intéresse donc qu'à son profit, ignorant la mise en danger des populations et l'empoisonnement à long terme de notre planète, et ce, avec un manque total de respect pour le peuple japonais.
Merci Alain. Dominique, tu vas enchaîner avec les résultats de l'étude épidémiologique.
Pas facile à dire, hein.
réalisée sur la Corse, donc suite à la catastrophe de Tchernobyl.
Bah écoute, oui, Céline, et puis ce dont je vais parler surtout, c'est la preuve, on va dire, la preuve corse d'un véritable mensonge d'État. L'Assemblée de Corse, qui s'appelle CTC, a révélé le jeudi 4 juillet 2013, donc il y a à peine un mois pour notre émission, les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée à sa demande par une équipe indépendante de scientifiques italiens. L'enquête conclut que la radioactivité consécutive à l'accident nucléaire qui a eu lieu en Ukraine le 26 avril 1986 est bel et bien responsable de la flambée des cancers, tumeurs et autres pathologies thyroïdiennes en Corse. En effet, la Corse fut la région de France la plus contaminée par le nuage radioactif de Tchernobyl. Un mois après l'accident nucléaire en Ukraine, elle affichait les taux les plus importants de Becquerel, au point que le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Charles Pasqua, avait demandé l'arrêt de la balise installée sur l'île. La contamination se fit à la fois par inhalation des particules radioactives de l'air et par injection d'aliments ou de boissons fortement radioactives. Depuis, tous les gouvernements, je dis bien tous, se sont obstinés à nier le lien de causalité entre le nuage de Tchernobyl et les pathologies qui en ont résulté. Devant le manque de fiabilité et de vérité des études menées par l'État sur les retombées dans l'île, l'Assemblée de Corse, unanimement, décidait d'engager une enquête épidémiologique et d'en confier la réalisation à un organisme indépendant par la voie d'un appel d'offres européen. C'est une équipe italienne, l'équipe de recherche du professeur Paolo Cremonesi, chef des urgences de l'hôpital Galliera del Gene, qui a été choisie en 2011. Elle a étudié entre avril 2012 et juin 2013 plus de 14 000 dossiers médicaux complets, s'étalant sur une période cumulée de 25 ans. Ils représentent une documentation inédite, car ils suivent l'évolution des patients avant et après l'incident de Tchernobyl et l'exposition aux nuages radioactifs. Cette étude présentée est donc une première, puisqu'elle est la seule en Europe à ce jour. Elle s'appuie sur des dossiers médicaux de personnes non hospitalisées qui peuvent directement ou efficacement mesurer l'impact de la radioactivité. Eh bien, les résultats sont sans appel. L'enquête conclut de façon certaine à une corrélation entre la radioactivité qui a touché la Corse et l'augmentation des pathologies thyroïdiennes. Après le passage du nuage, le risque de thyroïde a flambé de 78,28% chez les hommes qui ont été exposés au nuage, de 53,33% chez les femmes et de 62% chez les enfants. Chez les enfants qui ne sont pas touchés par les pathologies thyroïdiennes en principe. Chez les hommes, le risque de nodules bénins a augmenté de 64,51%, celui d'hyperthyroïdisme de 103,21% et les cancers de la thyroïde de 28,29%. L'enquête met aussi en évidence une augmentation des leucémies chez les enfants. Le silence d'État a donc été mortel. L'enquête scientifique marque une avancée importante et elle ouvre un chemin d'espoir tant au niveau insulaire que national, européen, voire mondial. Publiée sur le site de l'Assemblée, elle est à la disposition du public, de la communauté scientifique et des associations qui peuvent s'en emparer, à la fois pour tenter de mettre en place des actions sanitaires de prévention, bien sûr, et pour obtenir l'indemnisation des victimes. Nul doute que cette enquête corse fera débat dans les jours à venir, on l'espère, et d'autant qu'elle remet en question la politique française, voire européenne, en matière de radioprotection.
Merci Dominique, pas facile à dire non plus.
Radioprotection.
On enchaîne avec une petite pause musicale.
J'ai pas tenu trop.
Les gens raisonnables se lèvent toujours à l'heure. Ils n'oublient jamais leur cartable. Font bien gaffe de rien abîmer. Ils mettent toujours une ou deux pièces de plus dans les horodateurs. Alors ça énerve les autres qui les traitent souvent de pédés. Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie. Ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Les gens raisonnables ne font jamais comme bon leur semble. Ils ne traitent personne de minable, ne s'agacent pas dans leur voiture. Et si jamais quelqu'un les blâme, même s'ils savent qu'ils ont raison, pour ne pas risquer l'incartade, ils s'excusent ou bien ils s'en vont. Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie. Ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Se prennent la tête des mauvais jours et des années insupportables passées à se faire oublier. Ils font toujours tout dans les règles et quand les règles sont injustes, ils frappent du poing sur la table et se rassoient pour se calmer. Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie. Ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Les gens raisonnables ont plein de doutes, trop de soucis, donc moins de souvenirs dans leur sac à la fin de leur vie.
écoutez toujours Radio Méga, c'est Atomic Mac. Avant d'enchaîner sur les lectures du jour, je voulais vous parler d'un film qui va sortir le 28 août 2013, qui s'appelle Grand Central. Donc je vais vous raconter rapidement l'histoire du film. C'est l'histoire d'un jeune homme un peu paumé, Gary, qui, de petit boulot en petit boulot, va finir par se faire embaucher dans une centrale nucléaire. Après une formation accélérée, il travaille dans les zones les plus dangereuses, au plus près des réacteurs, où les radiations sont les plus fortes. Il s'intègre dans une équipe, se fait des amis, tombe amoureux de la femme de l'un d'eux et entame une relation avec elle. Précaire aussi bien en amour que dans sa vie professionnelle, il est prêt à prendre tous les risques et les radiations qui vont avec pour conserver son emploi et rester dans cette famille qu'il a enfin trouvée dans cette équipe de décontamineurs. Donc ce film a été projeté en avant-première au navire le 3 juillet et il a été précédé d'une conférence de presse donc en présence de la réalisatrice Rebecca Zlotowski et j'ai eu la chance d'y participer. En voici un extrait.
C'est pas un film documentaire, vous l'avez dit, mais c'est quand même une peinture de ce qu'on appelle ici ces travailleurs du nucléaire ici et ailleurs d'ailleurs, parce qu'on a dans toutes les centrales nucléaires. Comment vous l'avez pénétré ce milieu que vous relatez quand même très bien?
Ça a été d'abord... Nous, on est entrés, disons, avec ma scénariste, vraiment comme des universitaires ou des journalistes au départ. C'est-à-dire comme vous, sans doute, le travail, quand on doit se documenter, s'intéresser à ça. Puis on voulait en rencontrer tout simplement parce que c'était nos personnages. Donc j'ai rencontré très vite Claude Dubout, qui est un décontamineur, qui avait publié à compte d'auteur un livre qu'on a trouvé formidable avec ma scénariste, qui a été une grande source documentaire, et qui s'appelle « Je suis décontamineur dans le nucléaire ». Donc plus littéral, on meurt, et qui voilà qu'on a lu avec beaucoup beaucoup d'intérêt, et il nous a fallu tout de suite le rencontrer. Et en le rencontrant, ça a été derrière, voilà, évidemment, tout un autre pan de tout un autre monde de travailleurs qui étaient ses collègues, ses alliés, les décontamineurs avec lesquels il avait travaillé. Et il a été décontamineur et il l'est toujours depuis une bonne vingtaine d'années. Donc voilà, ça a été, disons, notre passe-partout. Ça a été notre sésame au départ. Et voilà comment on en a rencontré quelques-uns. Après, très vite, on s'est distingué du travail documentaire sur le film. Ce qu'il fallait, c'était connaître un peu les termes d'une centrale nucléaire et ces hommes-là, essayer d'en rencontrer quelques-uns. Mais très vite, ça a été romancé et fictionné. Donc le film n'est pas, même s'il y a eu une démarche documentaire pour nous renseigner au départ, n'est pas du tout un état documentaire des lieux.
Là, pourquoi précisément autour de cette centrale de Cruas, vous aviez un attrait particulier pour la centrale même, il y en a d'autres en France.
J'ai trouvé que la centrale, elle faisait vraiment partie de l'imaginaire collectif des Français avec sa peinture murale. Et puis on a eu l'argent de cette région qu'on a demandé, puisque c'est la grande région, je trouve, la région Rhône-Alpes, c'est vraiment autour du Rhône que sont la plus grande concentration de centrales nucléaires en France. Et donc il était assez évident de nous orienter vers cette région-là, qui en plus est une région magnifique, tout simplement. Donc je crois que ce qui me plaisait, c'était, et dans le film c'est présent, la juxtaposition d'un milieu luxuriant, magnifique, vert, riche, et aussi beau que l'Ardèche et la Drôme. Et d'un autre côté, la possibilité de filmer au pied des centrales et d'en avoir deux, trois possibles dans cette région. Pour toutes ces raisons, la production s'est orientée vers cette région-là. Et puis, on a eu l'aide de la région, qui a été de capital, disons, dans l'implantation du film là-bas.
Sur ces travailleurs du nucléaire, qu'est-ce qui vous, en tant que réalisatrice, vous a touché? Vous avez déjà posé la question tout à l'heure. Très précisément, des scènes, il y a quand même de la violence dans ce quotidien-là. Si vous aviez, vous gardiez quelque chose sur le plan émotionnel, en tant que femme réalisatrice de cet univers-là, ce serait quoi?
Je vous réponds la même chose que tout à l'heure, c'est le rapport à la liberté, le rapport à une fausse liberté, une liberté trompeuse, l'impression que parce qu'on peut mettre toutes les affaires sur la plage arrière de sa voiture et passer d'une tranche, c'est-à-dire d'une unité de production à une autre, d'être un jour dans le nord, un jour dans le sud, un jour dans l'est, un jour dans l'ouest, que pour ces raisons-là, on est un peu plus libre qu'avec un autre métier, mais je crois pas. Voilà, je crois que ça reste des gens très 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 exploités, oui. Après, bon, là, c'est, j'oriente, vous me posez ces questions-là, donc je vous réponds exactement ce que je pense. Le projet du film était pas tant de dénoncer littéralement c'était plus davantage un exercice d'admiration pour ces hommes. C'est vrai que je les ai admirés davantage que j'ai voulu dénoncer leurs conditions. Ça passait pas par une dénonciation.
Une question sur la solidarité, puisque, enfin, forcément, c'est quelque chose d'important dans ce milieu. C'est quelque chose que vous avez voulu montrer aussi?
Oui, j'avais envie de, disons que là, je mettais, le premier film que j'avais fait, c'était un portrait de jeune femme. Là, c'était le portrait d'une équipe aussi au départ, avec plusieurs hommes. Ça m'intéressait de parler d'une virilité que parfois je retrouve pas forcément au cinéma. Et oui, j'avais envie de je pense que quoi qu'on pense de cette industrie, il se trouve qu'il y a une il y a une forme nouvelle et particulière qui est que la dose se partage, que les rapports entre les travailleurs à l'intérieur d'une centrale sont, je crois, assez différents des rapports qui peuvent être héroïques ou d'abnégation, disons, dans une usine. Que là, en l'occurrence, il y a vraiment une conscience partagée, disons, du danger. Et je crois que ça amène des rapports différents. Ce que j'ai rencontré en tous les cas avec le Dubout, tous les travailleurs du nucléaire que j'ai rencontrés, c'était cette conscience-là, en tous les cas, de la notion d'équipe.
Voilà. Comme vous l'aurez compris, ce film ne se veut pas militant, mais il a l'intérêt de mettre en lumière le travail de ces personnes qui est assez peu connu, finalement, du grand public. Alors, peut-être que ce film n'est pas parfaitement réaliste sur les conditions techniques de leur mission, mais il l'est sûrement sur le stress et sur les peurs qu'ils subissent. Et puis ce film rappelle une chose, c'est que ce qui fait fonctionner les centrales au-delà de la belle technologie et de la science immaculée, ce sont des hommes avec leur courage, leur volonté, mais également avec leur faiblesse. Voilà, donc allez voir ce film, c'est intéressant. Il sort le 28 août 2013. Voilà, donc on va enchaîner avec une lecture et c'est Dominique qui commence.
Eh bien, oui, je commence parce qu'en fait, le film Grand Central s'inspire d'un roman, lui aussi, donc pas du tout d'un écrit théorique, mais d'un roman. Et ce roman qui s'appelle Centrale, La Centrale, donc, est écrit par une jeune écrivaine, 44 ans, Elisabeth Filol. Et d'entrée de jeu, quand on l'interroge, elle dit « Je ne suis ni pro ni anti-nucléaire ».
Voilà, mais ce qui est un peu le cas de Rebecca Slow.
Un petit peu également le cas de la réalisatrice. En fait, qu'est-ce qu'exprime le livre La Centrale ? Il s'empare avec lucidité, on peut le dire, et nuance du thème quasi tabou, qui est le point de départ de l'ouvrage d'ailleurs, c'est le suicide de 3 agents EDF à la centrale de Chinon en Indre-et-Loire entre août 2006 et janvier 2007. Elisabeth Filol va lire tous les rapports. Et c'est un petit peu l'intérêt de ce roman, justement, parce qu'il est bien de donner la parole aux salariés, qui, comme elle dit elle-même, qui vendent leur corps au prix du kilo de viande, en encaissant des radiations contrôlées quotidiennement. Eh bien, ce roman, même s'il n'y a pas toujours une très bonne écriture, même s'il n'est pas toujours facile à lire, parce que quelquefois un peu technique, il a au moins cet intérêt, c'est de donner la parole à des travailleurs, à des gens qui quotidiennement risquent leur vie. Voilà. C'est toi ou c'est moi qui le... C'est moi.
Allez, vas-y.
Eh bien, je commence avec le passage. Alors, le passage qui est choisi d'Elisabeth, c'est le tout début, en fait. 3 salariés sont morts au cours des 6 derniers mois, suicidés à force de vendre leur corps au prix de la viande. Des frères d'armes qui disparaissent et d'autres qui arrivent par milliers de toute la France pour les remplacer. Comme en première ligne, à la sortie des tranchées, celui qui tombe est remplacé immédiatement. Il s'agit d'une guerre, d'un combat. Alors, puisqu'il est question de mettre sa vie en jeu, l'enrôlement est facile. Effectivement, c'est dangereux, mais il faut bien le faire. Et quand on accepte ce genre de contrat, des missions, on en trouve partout. De fait, les hommes affluent au petit matin dans les agences d'intérim, toujours les mêmes, chaque année. Des postes à pourvoir, du jour au lendemain, une économie de l'offre, c'est bien ça l'essentiel. On pousse la porte et c'est signé. Dans cette vie de travailleur itinérant, cette vie de compagnonnage, où chacun se reconnaît dans l'autre, où les hommes vivent ensemble dans des caravanes loin de leur famille, seule la fraternité simple de ceux qui risquent leur vie permet de tenir. C'est ce qui demeure chez ceux à qui on en demande d'aller toujours plus vite et au moindre coût. Mais malgré cela, la pression dans l'exécution des gestes chronométrés, puis le danger, la peur de la mort et du renvoi à la moindre erreur, tout cela terrorise les hommes. Comme celui qui, en combinaison étanche, ne peut se résoudre à descendre dans la piscine contaminée par les multiples gaz pour effectuer son travail et est mis immédiatement à la porte. Ou encore celui qui craque, qui l'est tout en plan et part en subissant la colère des collègues alors obligés de doubler leur travail. Germinal des années 2000, la centrale nucléaire est un monstre de béton dévorant les hommes avant de les recracher. Une bête impressionnante, générant un bruit assourdissant et détenant en son sein une énergie colossale. Une énergie telle que l'ampleur de ses dégâts pourrait être catastrophique. Pour l'instant, ce ne sont que les ouvriers qui en sont les victimes. Et au lieu de craindre pour leur santé, ils vivent avec la peur de recevoir la dose de trop, la peur de dépasser le niveau maximal d'irradiation autorisé, et ainsi d'être hors jeu jusqu'à la saison prochaine, de perdre leur emploi. Parce que oui, il y a des quotas d'irradiation. Après cet accident, un incident, l'ouvrier nucléaire change de centrale et trouve un autre emploi. Cependant, cette fois-ci, il ne peut être embauché qu'après avoir effectué un stage, financé pendant des années par EDF. Ce stage est désormais à la charge du travailleur, au prix d'un mois de salaire brut, mais avec des facilités de paiement, une sorte de 4 jours sans frais, comme dans les grandes surfaces. Bref, chez EDF et Areva, comme chez France Télécom, la boîte encaisse les profits, vous encaissez les doses. Et même si ce n'est pas toujours bien dit, l'essentiel est toujours de le dire. La centrale d'Elisabeth Filliol est en vente aux éditions Paul, et elle fait 140 pages.
Merci Dominique. On enchaîne avec une lecture que nous propose de Alain, donc Malville de Robert Merle.
Oui, bonjour. Bonjour à tous à nouveau. Je voudrais vous faire découvrir Malville. Malville est un roman post-apocalyptique paru en 1972 dont Robert Merle situe l'action en France, dans une bourgade rurale du Périgord. Nous sommes à Pâques en 1977. Dans les caves creusées dans le roc de l'antique château fort de Malville, Emmanuel, le propriétaire, met son vin en bouteille tandis que ses amis d'enfance discutent devant lui avec passion des élections municipales. Et voici que ce jour, pour Emmanuel si quotidien, si routinier, est aussi le jour d'une guerre atomique qui s'abat sur le monde par surprise et le détruit. En un instant, autour de Malville, dont le roc millénaire résiste à la fournaise, tout est anéanti. La bombe a rayé de la surface de la terre tout ce qui vivait, humains, animaux et végétaux. Dans ce coin de France, berceau de la préhistoire, les survivants de Malville régressent vers une civilisation primitive. Situation qui engendre autant d'optimisme que de pessimisme, car dans un monde où plus rien ne subsiste et où la seule femelle survivante compte 75 printemps, comment envisager de transformer la survie en existence ? Robert Merle met au cœur des préoccupations de la poignée de survivants ayant échappé à la mort, avec Emmanuel à leur tête, le pouvoir, la sécurité et la spiritualité. La subsistance n'est pas tout. Une fois la réserve de nourriture recensée, il faut penser à s'organiser, se structurer pour tenir sur le long terme. L'organisation sociale des survivants de Malville devient pour le lecteur le fil ténu qui les lie à la civilisation et chaque fibre de son attention vibre au gré de leurs aventures, découvertes et déconvenues. On s'attache à chacun des personnages, ils deviennent familiers, ils sont précieux, ils sont les derniers êtres humains. C'est Emmanuel qui raconte les événements et son récit est à peine entrecoupé des notes de Thomas, un autre survivant, qui, tels des points d'orgue, viennent apporter une justification supplémentaire à ses actes. Dans le passage que je vais vous lire, Emmanuel se remémore son dernier souvenir du monde d'avant le cataclysme. Ce jour-là, il a reçu une lettre de rupture de sa compagne Birgitta, repartie en Allemagne quelque temps auparavant. Toutes les lettres de Birgitta sont simples, mais la simplicité de celle-ci est un chef-d'œuvre. Délignant tout. Birgitta a rencontré à la clinique un jeune homme qui est tombé amoureux d'elle. De son côté, elle l'aime. Elle veut l'épouser. Certes, elle regrettera beaucoup mes caresses, car sur ce point, je l'ai beaucoup gâtée. Et merci aussi, Emmanuel, pour les cadeaux. Je t'embrasse bien fort. Birgitta. Postscriptum, je suis très heureuse. Je plie la lettre. Je la remets dans son enveloppe et je dis tout haut « Exit Birgitta ». Mais ce ton léger ne me réussit pas. Et là, assis à ma table, je passe un très mauvais moment. J'ai la gorge serrée, les mains qui tremblent, une impression pénible de perte, d'échec, de diminution. Je n'aime pas Birgitta, mais il y avait quand même un lien d'elle à moi. Quand je pense aujourd'hui à cette désolation, elle me paraît presque comique. Petit chagrin à l'échelle d'une petite vie et ridiculement hors de proportion avec ce qui allait suivre. Car c'est au milieu de ce drame intime minuscule que le jour de l'événement survint et nous frappa d'épouvante. Dans la société de consommation, la denrée que l'homme consomme le plus, c'est l'optimisme. Depuis le temps que la planète était bourrée de tout ce qu'il fallait pour la détruire, et avec elle au besoin les planètes les plus proches, on avait fini par dormir tranquille. Chose bizarre, l'excès même des armes terrifiantes et le nombre grandissant des nations qui les détenaient apparaissait comme un facteur rassurant. De ce qu'aucune, depuis 1945, n'avait encore été utilisée, on augurait qu'on oserait et qu'il ne se passerait rien. On avait même trouvé un nom et l'apparence d'une haute stratégie à cette fausse sécurité où nous vivions. On l'appelait l'équilibre de la terreur. Il faut bien le dire aussi, rien, absolument rien, dans les semaines qui précédèrent le jour J, ne l'avait laissé prévoir. Il y avait bien des guerres, des famines et des massacres, et ça et là des atrocités, les unes flagrantes chez les sous-développés, les autres plus cachées chez les nations chrétiennes. Mais rien en somme que nous n'ayons déjà observé dans les 30 années passées. Tout cela se situait d'ailleurs à une distance commode chez des peuples lointains. On était émus, certes, on s'indignait, on signait des motions. Il arrivait même qu'on donnât un peu d'argent. Mais en même temps, tout au fond de soi, après toutes ces souffrances vécues par procuration, on se rassurait. La mort, c'était toujours pour les autres. Les masses médias, j'ai conservé les derniers numéros du Monde et l'autre jour je les ai relus, n'étaient pas alors particulièrement alarmantes. Ou alors elles l'étaient, mais à échéance lointaine. La pollution, par exemple. On prévoyait que d'ici à 40 ans, elle mettrait la planète à deux doigts de l'abîme. 40 ans. Je crois rêver. Que ne les avons-nous devant nous ? C'est un fait, je le dis sans ironie car elle serait par trop facile. Journal, radio, télévision, aucun des grands organes d'information qui nous renseignaient si bien, en tout cas si abondamment, ne pressentit en aucune façon et à aucun moment l'événement. Et quand il tomba sur le monde, ils ne purent même pas le commenter après coup, ils avaient disparu. Il est possible d'ailleurs que l'événement ait été imprévisible. Terrifiante erreur de calcul d'un homme d'État à qui ses états-majors avaient fait croire qu'il détenait l'arme absolue. Folie subite d'un responsable ou d'un exécutant, même à une échelle assez humble, donnant un ordre que personne, ensuite, ne peut plus rappeler. Accident matériel entraînant par des réactions en chaîne des réponses automatiques, celles-ci en déclenchant d'autres des parties adverses, et ainsi de suite, jusqu'à l'anéantissement final. On peut multiplier les hypothèses, on ne saura jamais la vérité. Les moyens de la connaître ont été anéantis. La nuit commence, ce jour de Pâques où l'histoire cesse, faute d'objets. La civilisation dont elle racontait la marche a pris fin.
écoutez toujours Atomic Mac. On enchaîne avec donc sur nos lectures de l'été. Donc on enchaîne avec une lecture donc qui s'appelle Bas Occident, que va nous présenter Jean-Marie.
Merci et bonjour aux auditeurs. Donc c'est un livre de Frédéric Gobert, qui est un résident de l'Ardèche, enseignant d'une quarantaine d'années, qui est docteur en sciences du langage. Il en est donc à son sixième livre, il en a écrit un septième, paraît-il. Donc « Bas Occident, civilisation nucléaire, dernières années » est édité aux éditions des Deux Encres en 2011. Ce titre du roman d'anticipation, Bas Occident, civilisation nucléaire, dernières années, Bas Occident, comme on dit, Bas Empire, les derniers moments de l'Empire romain. Ici, ce sont les dernières années de l'Occident, de notre civilisation nucléaire. Le roman se situe en Ardèche dans 30 ans. En 2040, que restera-t-il de l'Ardèche, de la France, de l'Europe, du monde? Avec l'épuisement des ressources naturelles mondiales, la crise énergétique, les problèmes d'eau, l'accroissement démographique et j'en passe, le roman imagine une situation malheureusement très crédible, des crises et des catastrophes sociales, économiques, écologiques, nucléaires. L'arrière-plan du roman est cet effondrement du système mondial et de notre modèle de civilisation. Pendant ce temps, une poignée d'êtres humains, avides d'amitié, d'art, d'amour, de fraternité, d'entraide, s'est regroupé dans un village d'Ardèche et développe un nouveau mode de vie. Ils organisent un réseau de communes qui essaiment dans le monde entier et qui se proposent de prendre le relais de la société qui s'écroule. Mais ce qu'ils construisent est à visage humain, respectueux de la nature et de l'homme. Pour eux, il n'est plus question d'épuiser les ressources de la planète et de prospérer sur l'exploitation de l'homme, comme c'est le cas dans notre civilisation. Je vais vous lire un extrait qui s'intitule « Chronique de la fin du monde sur les catastrophes nucléaires en chaîne inéluctables et pourquoi ». Il y développait l'idée que la meilleure raison de renoncer au nucléaire n'était aucune de celles qui étaient communément admises et soutenues depuis le problème posé par le traitement des déchets jusqu'au risque d'accident pourtant majeur. Selon lui, la sécurité des centrales nucléaires comme la gestion des déchets ne peuvent être une garantie qu'au moyen d'un dispositif très complexe, nécessitant des conditions impossibles à remplir à long terme. Dès qu'un pays possédant des centrales nucléaires entrerait dans une période de graves troubles sociaux ou économiques, ni l'État, ni les entreprises responsables de la sécurité ne seraient en mesure d'empêcher l'interruption de la fragile chaîne des responsabilités qui permet de garantir la sécurité des sites, lesquels se retrouveraient sans les soutiens logistiques humains ou matériels indispensables. Les catastrophes nucléaires seraient alors inévitables, de même qu'elles l'étaient déjà en période de paix, comme les événements récents le prouvaient sans cesse. Selon Alvin M. Weinberg, un physicien qui avait participé à la production du plutonium pour la bombe lâchée sur Nagasaki, seule une prêtrise nucléaire aurait pu nous apporter la sécurité. Il affirmait cela 2 ans avant la désintégration du dollar sur l'or. Pour Tristan, il était alors déjà trop tard. Aujourd'hui, toutes les alarmes avaient été tirées, les limites franchies. Il ne s'agissait plus que d'attendre l'irréversible. Aucune prêtrise ne pouvait sauver quiconque. Il ajoutait qu'il était dans la nature de l'homme de croire en la permanence de son environnement social, géographique, politique. L'homme avait naturellement beaucoup de mal à admettre que la moitié de son pays pût disparaître après un cataclysme naturel. La société changeait de régime, même si l'histoire n'était constituée que de tels changements, et son pays faire faillite ou perdre une guerre après laquelle il serait démantelé définitivement. Or, l'histoire de l'homme et des sociétés montrait que toutes les sociétés sans exception s'étaient effondrées. Pour cette raison imparable, les centrales nucléaires étaient destinées à la catastrophe nucléaire. Tristan précisait qu'en effet, elles ne seraient jamais démontées, car les infrastructures qui permettent de faire fonctionner les centrales et de garantir leur sécurité ne pourraient être préservées durant les années qui seraient nécessaires à leur démantèlement, lequel s'accompagnerait nécessairement et simultanément de celui du système qui en dépendait. Ainsi, pas de démantèlement possible. En outre, ajouter au traitement des déchets, le coût du démantèlement de tous les réacteurs excédait la richesse réelle globale de la planète. Ce recours étant écarté, le destin d'un pays nucléarisé était d'être soumis aux catastrophes nucléaires. La seule question était « quand ?» Mais non pas « une catastrophe est-elle possible ?» Nous étions les personnages d'un de ces films catastrophes produits par dizaines au tournant du siècle dernier. À la fin, sur les ruines contaminées de notre planète, une poignée de survivants égaux et fraternels fondait un monde nouveau, empli d'espoir. Où les massacres et le repli sur soi se poursuivaient à l'échelle de la chefferie et de la tribu, en un vaste mouvement de balanciers qui, en quelques décennies, nous ferait franchir 10 000 ans jusqu'au début du néolithique, à l'époque où naissait l'agriculture. Ici, cette dernière mourait, et avec elle, toutes les civilisations que le monde avait connues. La chronique de la fin du monde était énoncée avec une simplicité élémentaire qui menait à se demander comment personne ne semblait y avoir pensé plus tôt.
Merci Jean-Marie. C'est bien. On enchaîne avec un texte donc d'une auteure japonaise qui s'appelle L'archipel des séismes, que va nous présenter Dominique et dont Vanessa va nous lire un extrait un peu après.
Alors, c'est pas un texte, en fait, c'est un recueil de textes parmi de grands écrivains et écrivaines japonaises qui ont fourni quelques nouvelles, leur réaction par rapport à l'accident de Fukushima. L'archipel des séismes, c'est donc le titre, n'a pas vocation à apporter des solutions à la reconstruction. Les auteurs décrivent plutôt l'avenir qu'ils espèrent pour leur pays. C'était un petit peu le thème qui leur avait été proposé. Alors, pour certains, la solution est évidente, le Japon doit à tout prix sortir du nucléaire. Le seul traitement possible est politique, dit l'un d'entre eux. Il faut assumer les choix réalistes d'une sortie complète du nucléaire. Dorénavant, la coexistence avec le nucléaire, en tout cas sur notre archipel, aurait pour seule signification la conservation en l'état d'un temps brisé et d'une imagination détruite, explique Saito Tanaki. D'autres, comme Kang Sang-jung, appellent à une renaissance plutôt qu'à une restauration du passé. Je ne peux m'empêcher de penser que si le Japon avait persisté dans la voie qu'il avait adoptée jusqu'ici, c'est le cœur même de la société qui, comme le cœur des réacteurs, aurait fini par fondre. Et Vanessa va nous lire un court passage, mais tout à fait passionnant, de Katuta Mitsuyo, qui est une jeune écrivaine. Et à toi, Vanessa, je te passe le début du texte.
Violence de la nature. Comme ces mots sont discordants face à ces scènes. Le mot « nature » reste sans écho, et même le mot « violence » semble dérisoire. Les noms lus dans le journal, la vie qui se déroulait dans ces lieux auparavant, se superposent au paysage. Les gravats empilés ne doivent pas être réduits au seul terme de gravats. Chaque amoncellement représente une vie différente, un souvenir, un trésor, un quotidien, et c'est maintenant seulement que je le réalise. Le terme de « région sinistrée » englobe des réalités bien différentes pour chaque ville. Il ne s'agit pas de disparité dans le niveau de gravité des dommages. Tout est dissemblable. Les paysages, les odeurs, la nature du lien avec la mer, l'écho qui y subsiste de la vie quotidienne. Pour évoquer les réfugiés, les personnes portées disparues, les maisons détruites, nous ne disposons que de chiffres. Mais le chiffre 100 représente la vie de 100 personnes. 1000, c'est 1000 existences. Ce sont ces évidences qui me viennent à l'esprit. Et puis je ne comprends plus. Qu'est-il donc arrivé? Qu'avons-nous perdu? Je suis envahie par un sentiment d'impuissance qui semble me vider peu à peu de mes forces.
Merci. Merci à tous. On a eu des jolis extraits de lecture. Donc je laisse Pierrick terminer l'émission comme d'habitude avec l'agenda. À toi Pierrick.
Un agenda spécial pour cet été, donc tout d'abord je vais vous appeler à participer à un jeûne qui se déroule du 6 au 9 août, qui est organisé par la Maison de Vigilance. C'est un jeûne qui a lieu à Paris, alors peut-être vous avez l'occasion de passer par la capitale pendant vos pérégrinations estivales, n'hésitez pas à aller les rejoindre. Ce jeûne a pour objectif, un triple objectif en fait, qui demande l'élimination des armes nucléaires dans tous les pays européens et d'une façon générale sur toute la planète. En premier lieu, les Anglais demandent une élimination de leur arsenal et un non-renouvellement. Il y a aussi les demandes qui concernent la France, à savoir de respecter une bonne fois pour toutes le traité de non-prolifération. Et je vous invite à aller voir ICAN, International Campaign of Abolition Nuclear Weapon, donc campagne internationale d'abolition des armes nucléaires. Donc ICAN sur Internet, ils vous expliqueront tout ça très très bien et dans le détail. Et ça a lieu du 6 au 9 août, parce que le 6 août a frappé la ville de Hiroshima en 45, et le 9 août c'était Nagasaki. Et voilà pourquoi ces jours sont consacrés à la mémoire de ces deux catastrophes nucléaires, catastrophes volontaires, hein. C'était des armes, c'était des bombes. Ensuite, il y a la possibilité pour ceux qui le souhaitent de participer une fois de plus le samedi de 11h30 à 13h, Porte Neuve, à l'action sur les périmètres particuliers d'intervention. Ça a lieu tous les samedis du mois d'août. Il y a la réunion de sortir du nucléaire qui est organisée le 26 août. Mais pendant toute cette période, peut-être certains d'entre vous auront envie de passer du temps à se rendre utile pour la cause antinucléaire. Et pourquoi pas aller faire un tour à la Maison de Bure, qui est en quête de résidents pour la saison 2013. La Maison de Bure, c'est un haut lieu de la résistance antinucléaire. C'est tenu par un collectif d'antinucléaire qui, par le biais de bâtiments conçus écologiquement, met à disposition des salles et tout un tas d'informations relatives aux alternatives, et ça a lieu, donc ça se trouve à Bure dans la Meuse, et ils cherchent des bénévoles donc pour agrandir les locaux, et je vous invite à vous y rendre. Si vous voulez plus d'infos, faut aller sur burezoneblog.overblog.com. C'est là où vous trouverez la possibilité de vous inscrire pour faire soit des enduits, soit un petit peu de jardinage, soit accueillir des bénévoles, soit un petit peu d'intendance. Enfin, libre à vous de passer un moment agréable en leur compagnie. Faut pas y aller en pensant que c'est pour du boulot, mais bien pour une rencontre, parce que ces gens-là sont très riches d'informations, d'expériences et de culture militante, et je pense que ça peut être une façon très agréable de passer quelques jours ou voire une semaine ou deux dans l'été. Et ils vous sensibiliseront à toutes les causes qu'on aborde tout au long de l'année à Atomic Mac. Bien évidemment, si vous avez des questions qui restent sans réponse, n'hésitez pas à les poser sur notre répondeur au 0805 69 67 58. Numéro gratuit, je le rappelle, 0805 69 67 58. Je rappelle que nous ferons une émission spéciale avec des intervenants scientifiques et techniques qui apporteront les réponses à vos questions. N'hésitez pas à passer un bon été sur Radio Méga, mais juste avant, je tiens à vous dire que cette émission a été réalisée et présentée par Céline, avec Andrea à la technique. Toutes les filles étaient accompagnées de Georges, de Vanessa, d'Alain, de Jean-Marie et de Dominique. Notre prochaine émission, aura lieu le 2 septembre. Et après avoir entendu Mickey 3D, Les gens raisonnables, Police, Walking in Your Footsteps, nous écoutons Jacques Higelin, qui va nous interpréter Irradié, avec bien évidemment la possibilité pour vous de retrouver les bouquins qu'on a présentés sur le site internet de Sortir du nucléaire en Drôme Ardèche. Et je rappelle qu'il y en a pour moins de 9€ en édition poche, par exemple pour le livre de Robert Merle, Malville, ou bien L'archipel des séismes également, qui coûte un petit peu moins. Et vous avez la possibilité d'avoir La Centrale pour 9€ aux éditions Paul, et bien évidemment le dernier bouquin qui vous a été présenté dans les mêmes éditions, toujours Base Occident de Frédéric Gobert, aux éditions Les Deux Encres. Voilà, je vous souhaite un bon été à tous sur 92.2 Radio Méga. À bientôt.
Le fou, le débile, je suis du village d'idiots et j'entends les rumeurs de la ville. J'entends les passages cloutés berçant les piétons sages au rythme des feux verts dans le désert des embouteillages. Irradié, voyageur immobile. la jolie Joe et j'entends les rumeurs de la ville. Ouah oh. Compagnon des lézards obscènes, je déjeune à minuit, des girafes rôties qui battent encore de l'aile, sous le menton crochu des sorcières malsaines.